Ah, je vais pas faire pareil que toi, hein. Je vais pas faire ça.
Dans la précédente chronique, nous avons vu qu'une école de troisième type doit être une maison d'habitation, faite d'abord pour y vivre. Mais évidemment, elle a une finalité particulière, permettre l'évolution de tous les langages à partir des projets des enfants. Si elle est une habitation, elle est aussi un vaste atelier. Ce qui suppose des attributions spécifiques à différents espaces, comme dans un garage, une exploitation agricole, un atelier de menuiserie. Si l'école du troisième type a pu se développer dans quelques classes uniques, c'est aussi parce qu'en raison de l'espace libéré par les suppressions de classes, on pouvait y séparer de nombreux coins particuliers. Dans ma classe unique, nous disposions de deux salles, d'un couloir que nous avions coupé et aménagé en atelier son, d'un préau que la municipalité a fini par fermer en le transformant en salle de motricité ou autre activité, de l'ancien logement de fonction dont le rez-de-chaussée finit par être aménagé en médiathèque avec entrée particulière pour les gens du village, l'étage étant utilisé pour divers rangements, et un grand jardin avec sa mare. Plus de 300 mètres carrés habitables. Comment faudrait-il aménager une école du troisième type pour qu'elle soit digne de ce nom? S'il s'agit de faire un aménagement d'abord fonctionnel, il s'agit aussi de concevoir des espaces accessibles à tout moment suivant les besoins des divers projets. L'occupation de tous les espaces permet aussi de résoudre les problèmes liés à la promiscuité permanente et d'éviter un certain nombre de nuisances comme celle du bruit. Nous ne sommes plus dans la situation où l'on déplace successivement la totalité des enfants de la salle dite de classe à la salle informatique, puis à la salle de motricité, puis à la salle de l'ABCD, etc. Il y a toujours besoin d'une salle collective où l'on peut se retrouver pour une réunion, se réunir à certains moments pour présenter aux autres, discuter d'un projet, ou travailler ensemble autour d'un projet. Une salle commune où l'on peut aussi réaliser un certain nombre d'activités personnelles ne nécessitant pas un espace particulier comme écrire, dessiner, mettre au propre, peaufiner. Cette salle doit pouvoir être aussi le reflet de la vie et de l'histoire du groupe d'enfants, comme la salle commune d'une maison l'est de ses occupants. Il n'est pas d'apprentissage, de construction de connaissances qui se situe hors de l'histoire des personnes et de leur communauté, dans une mise en relation d'informations, d'événements mémorisés avec des informations et événements du présent. L'espace est aussi la mémorisation et la mise à disposition permanente de tout cela. La connaissance est toujours une émergence. Il faut donc prévoir qu'il faudra afficher, exposer, classer, ranger, non pas pour seulement décorer, mais pour avoir accès à des informations produites et accumulées dans le temps. Mais s'il faut qu'une communauté ait un espace commun, chacun a aussi besoin de son espace personnel, comme dans une maison, chacun devrait avoir sa chambre. C'est peut-être le problème le plus difficile dans l'aménagement d'une école. À une époque, pour utiliser plus rationnellement l'espace, j'avais supprimé les attributions de table aux uns et aux autres et installé des casiers tenant peu de place contre un mur pour le rangement des effets personnels de chacun. Et j'avais remarqué qu'instinctivement, chacun choisissait presque toujours le même endroit pour travailler qui redevenait ainsi sa place. Et nous avons rapidement attribué une autre fonction au casier. S'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de laisser les enfants s'approprier un bureau, il faudrait au moins que ce soit un vrai bureau, où chacun puisse ranger, voire dissimuler ce qui est son intimité. C'était dans ma classe le seul endroit où non seulement je ne me permettais jamais de mettre mon nez, mais qu'il était interdit aux parents de farfouiller. Règle que beaucoup de mamans ont eu au début quelque mal à accepter. Il faut reconnaître que le mobilier scolaire tel il est conçu actuellement n'est pas fait pour permettre la moindre intimité, voire le moindre confort. Ce problème de l'intimité, on le retrouvera dans tout l'aménagement. Par exemple, les ordinateurs sont toujours placés contre un mur pour de simples raisons pratiques de connectique et de fil qu'il faut éviter de laisser traîner. Mais ainsi, tout ce que l'on peut écrire sur l'écran est visible par tout le monde, ce qui peut faire hésiter beaucoup à se lancer ou à se laisser aller. J'avais remarqué qu'en les installant dans des coins ou recoins moins à la vue, en ne les mettant pas tous au même endroit, je multipliais leur utilisation par tous les enfants. Un autre maître mot d'une école du troisième type, la tranquillité, dont l'aménagement de l'espace est une clé.
Je te ramène à Belle, je te casse la tête, et puis tu me
Et puis nous arrivons aux espaces consacrés aux ateliers permanents, là où chacun pourra se rendre suivant ce que ses projets et ses envies nécessiteront. La bibliothèque, les ateliers sciences, peinture, sculpture, bricolage, marionnettes et créations orales et corporelles, musique, écoute et enregistrement, vidéo, jardin, etc. Ces ateliers ne posent pas de problème quant à leur conception. C'est là que l'on peut faire, trouver ce dont on a besoin pour faire, trouver ce que d'autres ont fait, laisser ce que l'on a fait, trouver des documents, des outils qui incitent à faire. Et partout, on doit pouvoir aussi y écrire. L'atelier mathématique semble souvent moins évident, puisque l'on peut mathématiser n'importe où. Il est pourtant indispensable. D'abord parce qu'on y place une foule d'outils mathématiques par eux-mêmes, comme par exemple des calculettes ou un tableur. Ensuite, des objets incitateurs, des balances Roberval ou romaines, aux vieux calendriers ou jeux de cartes. Enfin et surtout parce que les enfants qui s'y retrouvent et sont nécessairement en interrelation, ils sont plongés dans ce langage bien particulier. L'atelier écrit est transversal. On doit pouvoir écrire et lire partout, pour une infinité de raisons, même au bord de la mare où nous avions placé une table et une chaise longue. Tout l'espace doit être incitateur à l'écrit. Qu'il y ait une seule unité, comme lorsque l'école n'était qu'une classe unique, ou plusieurs quand il y a 3 ou 4 classes, ne change pas grand-chose. S'il faut que chaque unité ait son espace propre, la plupart des ateliers peuvent être des espaces communs en dehors de l'atelier mathématique. Mais dans le second cas, il faudrait rajouter ce que j'ai appelé la place du village ou l'espace de l'agora. Oui, mais la sécurité, me direz-vous. On confond toujours responsabilité et sécurité. J'y reviendrai. Mais la sécurité n'est pas liée à la surveillance permanente, sinon il n'y aurait jamais d'accident à déplorer dans les cours de récréation bétonnées et dûment surveillées. Elle est liée à la tranquillité, à l'intérêt dans les activités, à l'auto-organisation indispensable pour tout les faire, à l'état sécure dans lequel chacun doit se trouver. Je peux témoigner qu'en près de 40 ans de pratique inusitée en classe comme en centre de vacances, je n'ai jamais eu à déplorer le moindre accident. On me dira encore que je suis utopique, que le coût d'une telle école serait démesuré. Je fais remarquer que les quelques écoles conçues différemment, soit dans les années 70 comme les écoles ouvertes, soit actuellement comme l'école de Monticello en Corse, ou le collège de Clitède à Bordeaux sous l'égide du professeur Hubert Montagnier, ne coûte pas plus cher. Ensuite, que l'on n'hésite pas pour n'importe quel bâtiment administratif nouveau à tenir compte et des besoins et de la vie de ceux qui auront à l'occuper ou à s'y rendre. Mais cela ne choque personne lorsque l'on entasse des enfants dans ce qui ressemble à des cabanes à lapins, même modernes.